au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour ce nouvel Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou qui vient de faire paraître chez Erol, crack financier, emploi, crédit, impôt, ce qui va changer pour vous. Alors nous connaissons bien à Canal Academy Nicolas Bouzou. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Nous savons que vous êtes très sollicité par tous les médias. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur fondateur d'Asterès. Vous êtes maître de conférences à Sciences Po et directeur d'études au sein du MBA de droit des affaires et de management de l'Université de Paris 2 d'Assas. Et bien entendu, vous intervenez sur les antennes et vos chroniques sont... s'arrache, on va dire, dans les différents médias nationaux. Vous faites de nombreuses conférences en France et à l'étranger et vous avez été l'année dernière, en raison notamment de vos vertus pédagogiques, le prix spécial du jury du prix Turgot, du meilleur livre d'économie financière, et vous êtes le vice-président du Cercle Turgot.
Absolument.
Voilà donc des titres qui sont le reflet de grandes compétences et vous faites partie de cette jeune génération d'économistes qui vient frapper à la porte du cercle bien connu des économistes. Bienvenue donc dans ce cercle. Alors, vous venez donc de faire paraître ce livre qui d'ores et déjà est accueilli d'une façon extrêmement intéressante et vous présentez, et je crois que ce qui est à retenir une nouvelle fois avec un grand sens de la pédagogie, cet ouvrage sous forme d'une pièce de théâtre. C'est ce que je crois avoir compris, en trois actes. Alors, j'espère que ça changera un petit peu des mauvaises pièces de théâtre, parce que dans ces pièces de théâtre, on sait comment se termine le troisième acte, généralement assez mal. Et donc, j'espère que ce que vous dites dans ce troisième acte est de nature à nous donner quand même quelques espérances. Alors, vous venez donc de faire paraître ce livre chez Erol. C'est un petit précis qui ressemble assez à celui qui a vu votre nomination. Alors, quelle est votre thèse à chaud? D'abord, vous parlez de crack financier, alors que beaucoup parlent de crise financière. Il y a peut-être déjà une première nuance pour nos auditeurs à rappeler. Quelle est la différence entre la crise et le crack?
La crise, elle est économique. C'est-à-dire qu'en fait, cette crise a eu lieu en trois temps. D'abord, on a eu en effet ce crack financier, on va y revenir, mais qui a commencé il y a maintenant quelques temps. Je dirais qu'on a eu les premiers signaux annonciateurs en février 2007 et puis une aggravation dans le courant de l'été 2007 et puis véritablement une déflagration à la rentrée 2008, au mois de septembre. On s'en souvient, on y reviendra, lors de l'affaire Lehman Brothers, etc., quand un certain nombre de banques ont commencé à être mises en grande difficulté. Ensuite, vous avez la crise bancaire, parce qu'une crise financière, elle a bien entendu des incidences négatives sur l'ensemble du système financier. Et le poumon du système financier, ça reste les banques. Les banques sont vraiment les organismes qui collectent l'épargne, qui vont chercher l'épargne et qui vont la reprêter aux agents économiques, qu'il s'agisse d'entreprises, de ménages, d'États, qui en ont besoin. Et maintenant, nous attaquons, si j'ose dire, la troisième et, je l'espère, dernière phase, même si c'est la phase la plus douloureuse, c'est la crise économique. Parce qu'on ne sort pas indemne d'une crise financière et d'une crise bancaire d'une telle gravité. Là encore, j'y reviendrai, mais on peut dire pour faire vite qu'il y a deux canaux de transmission essentiels de cette crise financière et bancaire vers ce qu'on appelle de façon un peu impropre l'économie réelle, mais enfin disons qu'il s'agit de l'économie telle que nous la vivons tous les jours en tant que consommateurs, en tant que salariés, en tant que chefs d'entreprise, en tant également que contribuables. Il y a essentiellement deux canaux de transmission. Premièrement, le canal du crédit, puisque des banques qui vont moins bien, ça signifie des banques qui ont moins de fonds propres et donc des banques qui prêtent moins à l'économie. Puis la deuxième chose, et là j'en viens à l'objet de ce livre, c'est que cette crise, elle est extraordinairement anxiogène parce que ça fait un an et demi que l'on parle aux ménages français de crack, de récession, de subprime, de produits dérivés, de produits toxiques. Tout ceci est extrêmement compliqué. On a souvent dit que les Français étaient fâchés avec l'économie, mais ils sont encore plus fâchés avec la finance anglo-saxonne. Et là, les termes que l'on emploie, ce sont bien des termes financiers anglo-saxons qui parmi les Français connaissait le terme subprime il y a 2 ans et demi? Qui connaissait Lehman Brothers il y a 2 ans et demi? Qui était conscient du fait que les banques se prêtaient énormément d'argent entre elles il y a 2 ans et demi parmi les Français, y compris parmi les cadres d'entreprise, enfin des gens qui s'intéressent à l'économie? Et je crois que cette crise, elle est anxiogène, et c'est pour ça qu'il y a, me semble-t-il, un besoin de pédagogie. Parce qu'à partir du moment où on comprend ce qui se passe, à partir du moment où on voit d'où on vient, et à partir du moment où l'on voit à peu près là où on va, on passe du mode anxiété au mode action. De toute façon, on n'a pas le choix.
Alors, on va revenir un peu plus dans le détail sur ces 3 points, ces 3 actes que vous avez détaillés. L'acte 1, donc, que vous intitulez « Gloire et misère de la finance américaine ». Et je ne résiste pas au plaisir de lire ce que vous dites en scène 1. Le décor se met en place. Les crises ne surviennent pas tout à coup par hasard. De la même façon que la crise de foie nous alerte, attention, tu as trop mangé, il faut te mettre à la diète quelques jours. Le crack signifie l'économie s'est emballée de façon excessive, les compteurs doivent être remis à zéro. Le crack et la récession, comme la crise de foie, sont des périodes pour le moins désagréables, dont nous pouvons toutefois atténuer certains symptômes. Malheureusement, une fois les excès commis, il est trop tard pour revenir en arrière. Je crois que la scène, le tableau de fond est parfaitement dressé. Alors, c'est tout ceci nous est venu de la finance américaine. Et l'actualité vient, hélas, de nous rappeler qu'il n'y a pas simplement des défaillances bancaires, il y a aussi des escrocs. Et je crois qu'on peut employer le terme. Parce que ce qui vient de se passer avec ce fameux Bernard...
Madoff. Absolument. Et c'est un point très intéressant, et je suis très content que vous employiez le mot d'escroc, parce que je dirais que, alors je prends l'analogie de la crise de foie, et je suis d'une nature un peu hypochondriaque, ce qui explique que dans mon livre, il y a énormément d'analogies médicales. Il est question de crise de foie, de septicémie, d'antibiotiques, vous verrez tout ça.
On voit bien l'image.
Voilà, exactement. Mais je crois que s'il y a quand même un rôle économique à la crise, c'est celui finalement, c'est comme la vague qui se retire de la plage, et puis vous vous rendez compte que la mer était polluée, parce que vous retrouvez, une fois que la vague s'est retirée, des pneus, des clous, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si les crises ont un rôle économique, c'est bien celui de corriger des excès passés. Et en réalité, le capitalisme fonctionne de cette façon. On avait tendance à l'oublier. Vous savez, quand les choses vont bien, tout le monde se dit « ça ira toujours bien » et on essaie d'inventer des paradigmes qui nous donnent à penser qu'on a trouvé la pierre philosophale de l'enrichissement permanent. Bon. Et puis à l'inverse, dans les périodes comme aujourd'hui où tout va mal, on se dit que c'est le grand soir, que c'est la fin du capitalisme, etc. Non, tout ceci est très excessif. En réalité, il y a des cycles économiques qui ont été bien décrits par un économiste comme Schumpeter, par exemple. C'est-à-dire que vous avez des phases d'innovation qui sont parfois d'ailleurs des phases d'innovation excessives. On a connu ça dans le chemin de fer au 19e siècle, on a connu ça au 20e siècle avec Internet et au 21e siècle, en ce début du 21e siècle, avec la finance. Et la finance a connu une période d'innovation avec des innovations intéressantes. Les produits dérivés, les produits structurés, la titrisation, tout ceci c'est très bien en réalité, sauf qu'on en a trop fait. Alors pour des raisons, on y reviendra, mais qui sont aussi des raisons institutionnelles, hein, qui sont propres à la structuration de la finance américaine, mais globalement il y a eu beaucoup d'innovations et aujourd'hui on est en train, excusez-moi cette image n'est pas très belle, mais de nettoyer en quelque sorte ces excès. Exactement. Et cette affaire Madoff est très intéressante parce que c'est pas un hasard si elle apparaît en ce moment, si vous voulez. On est dans une période de ce qu'on appelle la course à la liquidité. Alors, c'est un terme un peu barbare.
Rappelons que Madoff, c'est 50 milliards, on parle de 50
voilà,
milliards.
Voilà, ce
donc,
sont
c'est pas un détail.
Absolument. Et en plus, je trouve que ça illustre bien la période. C'est-à-dire qu'on est dans une période donc, de course à la liquidité. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais en réalité, l'idée est extrêmement simple. Ça signifie que tout le monde veut récupérer son argent. Qu'il s'agisse des banques, des entreprises, des hedge funds, les fonds spéculatifs ou des ménages, tout le monde veut retirer son argent. Et Madoff avait construit son escroquerie sur ce qu'on appelle un effet Ponzi. C'est qu'en réalité, l'argent qu'il collectait auprès des ménages, auprès des entreprises, il aurait dû le placer sur les marchés financiers et il ne l'a pas fait. Il l'a finalement mutualisé entre tous les ménages, toutes les entreprises qui étaient ses clients. Alors ça peut fonctionner si les gens ne viennent pas retirer leur argent. Mais à partir du moment où ils viennent retirer leur argent, ce qui s'est passé puisqu'on est en période de crise et de fuite vers la liquidité, ça ne fonctionne plus. Et donc, on voit apparaître voilà, des choses comme ça sous le tapis. Donc c'est... Mais là, je veux dire que ça n'est pas... On me dit souvent, depuis ces derniers jours, on me pose la question, vous voyez bien que c'est l'un des problèmes fondamentaux du capitalisme, etc. Non, ça, c'est une escroquerie. Enfin, je veux dire, c'est une escroquerie qui a été rendue possible par le fait qu'il y a eu un sentiment d'euphorie pendant de nombreuses années, par le fait que les autorités de régulation américaines ont fermé les yeux. D'ailleurs, on se demande, même en fermant les yeux, on se demande comment elles ne l'ont pas vu, d'ailleurs, cette histoire.
Mais c'est quand même bien ça.
C'est extraordinaire. Oui, oui. Mais c'est tout à fait extraordinaire.
Ça inquiète quand même vraiment, parce que le système de régulation, on ne pouvait ne pas voir.
Exactement. Mais Tout à fait, oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un problème judiciaire derrière qui va se régler.
Il y a des complicités, probablement.
Enfin, je veux dire, le braquage de banque est interdit aussi. Là, on n'est pas dans la vie normale des affaires, si vous voulez. On est vraiment dans l'escroquerie à grande échelle. Mais c'est vrai que seule une crise permet de voir ça. Parce que s'il n'y avait pas eu de crise, et si les gens n'étaient pas venus retirer leur épargne de ces fonds, eh bien, tout ceci aurait pu continuer pendant encore une dizaine d'années.
Alors, donc, la finance américaine, bah, vous la montrez du doigt, oui. Et on comprend à juste titre, c'est gloire et misère de la finance américaine. Tout commence, semble-t-il, avec une politique quand même monétaire accommodante de l'ancien gouverneur
Alan Greenspan.
Mais est-ce que c'est lui qui a créé les problèmes ou est-ce qu'il n'a fait que les accompagner, en tout cas retarder l'échéance ?
Je pense que dans cette histoire, les responsabilités sont extrêmement partagées. C'est pour ça que je suis toujours un peu gêné quand on essaie de chercher des coupables. Et c'est vrai que c'est un sport qu'on aime bien en France. En réalité, des coupables, il y en a énormément. En effet, les banques centrales sont coupables, mais on l'a vu, les autorités de supervision sont coupables, les autorités de régulation sont coupables, certains États sont coupables, certaines banques sont coupables, certaines compagnies d'assurance sont coupables. Donc des coupables, il y en a énormément. Je crois qu'il y a une conjonction de facteurs, et c'est pour ça que j'ai un petit peu retracé ce livre sous forme de pièce de théâtre, c'est que, en effet, c'est un feuilleton. C'est-à-dire que pour moi, la crise, en réalité, elle débute dans les années 30 par le New Deal. Et c'est drôle d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du New Deal, et finalement, tout le monde se dit, c'est un des grands thèmes de campagne de Barack Obama, nous allons faire un nouveau New Deal. Très bien, faisons un nouveau New Deal, c'est une politique intéressante par beaucoup de points de vue, mais en même temps, c'est une politique qui a aussi posé des problèmes. Et dans les années 30, on a le président Roosevelt, donc qui succédait au président Hoover. Le président Roosevelt est arrivé donc avec son projet de New Deal et a voulu débloquer le marché du crédit. Donc vous voyez que finalement, l'histoire, par certains côtés, se répète. On avait, à la suite de la crise de 1929, un marché du crédit, et notamment du crédit en particulier, qui était complètement bloqué. Et le président Roosevelt a voulu le débloquer en créant une entreprise qui rachèterait en quelque sorte les crédits des banques, ce qui permettrait aux banques de faire énormément de crédits. Il y aurait une entreprise publique qui rachèterait les crédits des banques, ce qui permettrait de diluer considérablement le risque. Et cette entreprise, tout le monde en a entendu parler depuis, puisqu'elle a quasiment fait faillite, elle s'appelle Fannie Mae. Et ça a tellement bien fonctionné, Fannie Mae, que beaucoup plus tard, dans les années 70, on en a créé une autre, qui s'appelait Freddie Mac. Puis elles ont tellement bien fonctionné qu'elles devenaient trop grosses, eu égard à ce que la dette publique, à ce que l'État pouvait supporter. Donc on les a privatisées. Et elles ont continué à très bien faire leur job, et elles ont inventé un mécanisme dont là encore tout le monde a entendu parler, qui s'appelle la titrisation. C'est-à-dire que au lieu de garder ces crédits qu'elles avaient rachetés aux banques, elles les ont transformés en produits financiers, ce qui a permis de les faire circuler de main en main. Et puis, dans les années 90, l'histoire ne s'arrête pas là. Voyant que Freddie Mac et Fannie Mae fonctionnaient très bien, et bien de grandes banques, comme Lehman Brothers par exemple, se sont dit « mais si on faisait la même chose ?» Sauf que Fannie Mae et Freddie Mac rachetaient des crédits de bonne qualité, donc il ne restait plus à racheter que des crédits de mauvaise qualité. Donc les banques d'investissement du type Lehman Brothers, Morgan Stanley, etc., se sont lancées dans cette titrisation de produits de moins bonne qualité.
Mais tout mais ça pour parce pouvoir que les y avait... revendre. Mais tout ça, Nicolas Bouzou, parce qu'il y avait de la liquidité.
Absolument.
Alors ça, on revient toujours à ce point de départ.
Et vous aviez tout à fait raison de rappeler que la politique monétaire de la Banque centrale américaine, de la Fed, a permis que tout ceci soit possible en réalité. Alors, on peut toujours refaire l'histoire, mais disons, pour remonter, alors là, pas dans les années 30, mais au début des années 2000, après le 11 septembre 2001, la Banque centrale américaine a mené une politique monétaire très expansionniste, ce qui signifie qu'elle a beaucoup baissé ses taux d'intérêt, ce qui était justifié. Quand on
fait
au 11 septembre 2001, je veux dire, il n'y a pas de débat, il fallait mener ce type de politique. Sauf qu'elle a oublié d'augmenter ses taux d'intérêt, et elle ne l'a fait que beaucoup trop tard, finalement, à un moment où la croissance était déjà repartie, et donc les marchés monétaires et financiers se sont retrouvés inondés de liquidités, et ces liquidités, eh bien, il a bien fallu les utiliser pour acheter des choses. Et donc, on a acheté eh bien, ces fameux produits structurés qui étaient faits à base de créances subprime, hein, c'est-à-dire des crédits véritablement de mauvaise qualité, et tout ceci a circulé sur les marchés financiers, avec une idée clé qui était de dire, si on mélange
des bons produits
et des mauvais produits, ça va faire des bons produits. Si on met un tout petit peu de très mauvais produits et qu'on met ça avec des bons produits, ça va faire un bon produit. Et je suis désolé de reprendre cette image un peu ragoûtante, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais c'est la même idée que si vous vouliez faire un hachis parmentier avec 90% de bonne viande et 10% de viande avariée. Vous faites un hachis parmentier, vous dites ça va être très bon puisque j'ai mis beaucoup de bonne viande. Et non, en réalité, tout votre hachis parmentier est mauvais, et c'est bien ce qui s'est passé avec ces mécanismes de titrisation et de produits structurés. Finalement, toute la planète financière s'est retrouvée contaminée.
Donc vous prenez l'image de la Chiparmentier, André Lévy-Lang, lui prenait celle de la salade niçoise. Mais ça revient au même, parce qu'effectivement, il suffit qu'il y ait un poisson à l'intérieur qui soit pollué pour que l'ensemble...
Et tout le monde tombe malade.
Et tout le monde tombe malade. Alors, bien entendu, les banques américaines, le grand mal est venu de ce côté-là de l'Atlantique. Et puis progressivement, alors on peut peut-être dire un mot avant d'en arriver à l'acte 2, qui est celui de la propagation sur les côtes françaises, pour le coup, sur quand même quelques termes, notamment le subprime, puisque c'est quelque chose, là aussi, on fait assez volontiers l'amalgame entre le subprime et la crise financière. Alors que le subprime, semble-t-il, enfin c'est ce que vous dites, est qu'une des parties, la partie visible de l'iceberg.
Absolument, et je serais même tenté d'aller encore plus loin. Oui. Je ne vais pas le dire trop fort, mais le subprime, en réalité, c'est quelque chose que moi, je trouve plutôt bien. Parce que de quoi s'agit-il, en réalité, avec cette histoire de subprime? Il s'agit de mettre en place des produits qui vont permettre à des gens qui n'ont pas un niveau de solvabilité extraordinaire, mais enfin qui ont de bons revenus. Ça peut être par exemple des jeunes créateurs d'entreprise, c'est-à-dire de gens qui ont de bons revenus, qui gagnent bien leur vie, mais qui peuvent de temps en temps avoir des revenus un petit peu moins élevés, parce que l'année n'a pas été bonne, l'activité économique a été moins dynamique, etc. Bon. Et donc, on va mettre en place des produits qui vont leur permettre d'accéder au crédit. Moi, je n'ai rien contre, bien au contraire. Sauf que ce qu'ont fait les Américains, en réalité, c'est qu'ils ont dévoyé le terme subprime. Ils n'ont pas fait véritablement du subprime. Ils ont usé, enfin certaines banques américaines, hein, pas toutes, hein, là je parle essentiellement de petites banques régionales, attention, ouais. Là encore il ne faut pas faire l'amalgame, la plupart des banques se sont très bien conduites, hein, mais certaines petites banques régionales américaines ont mis au point des produits avec des taux d'appel pendant 2 ans, voire pas de taux d'intérêt du tout, et puis ensuite des taux révisables pendant 18 ou 20 ans, qui étaient susceptibles d'augmenter énormément à des gens qui, pour le coup, n'étaient même pas des subprimes, étaient des gens qui étaient des demandeurs d'emploi.
Qui étaient tout à fait incapables de
rembourser, et on leur a prêté de l'argent en se disant, eh bien, on va titriser, on va rembourser le risque, etc. Puisqu'il y a beaucoup de liquidités sur le marché, on trouvera toujours quelqu'un pour vendre nos créances, etc. Donc tout ceci, bien entendu, n'a pas fonctionné, mais ce qui est vrai, c'est qu'il s'agit pas d'une crise du subprime, dans la mesure où le subprime, c'est l'endroit par lequel est arrivée la crise. Mais la crise, en réalité, est beaucoup plus globale. C'est une crise de l'organisation financière américaine que nous avons importée. Et c'est vrai que je suis très critique par rapport aux États-Unis, mais critique sur ce point. C'est-à-dire que, là encore, il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des choses aux États-Unis qui fonctionnent très bien et beaucoup mieux que chez nous. Dans le domaine économique, il y a des sujets sur lesquels les Américains ont beaucoup à nous apprendre. Hein. La recherche, l'innovation, l'université, tout ceci fonctionne 10 fois mieux aux États-Unis que chez nous. Mais en termes de réglementation financière, ça n'a pas fonctionné.
Ça n'a pas marché. Donc écoutez, on va marquer une pause de quelques instants avant de nous retrouver pour aborder le deuxième acte, la crise gagne les côtes françaises. Merci à vous.
Alain Besançon, Renaud Denoy de Saint-Marc, Henri Amouroux, Pierre Mazot, Jean Tullard, Jean Béchler, Mireille Delmas-Marty, Jacques Delarosière, Jean-David Levitte, ces philosophes, économistes, historiens, diplomates et juristes partagent leur passion et leur vision du monde. Retrouvez les membres de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie.
Nous retrouvons Nicolas Bouzou pour la parution de son ouvrage chez Erol, Crack financier, emploi, crédit, impôt, ce qui va changer pour vous. Et nous étions donc en train d'attaquer, si je puis dire, la deuxième partie du menu, l'acte 2, la crise gagne les côtes françaises. Alors voilà, les Américains ont fait beaucoup de bêtises, mais rapidement, on s'est aperçu que les séismes ne s'arrêtait pas sur la côte atlantique et qu'il pouvait traverser très rapidement l'océan pour arriver sur nos côtes. Alors, que s'est-il passé de notre côté? Comment se fait-il que les banquiers européens, français, occidentaux se soient lancés dans cette aventure et suivis comme un seul homme ces dérives?
Eh bien, en réalité, ils ne se sont pas véritablement lancés dans cette aventure. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, le problème des subprimes dont on parlait avant la pause, dans la quasi-totalité des pays européens, et a fortiori en France, il n'y a pas eu de prêt aux ménages subprime. En France, même ce qu'on appelle les near prime, même ceux qui sont au-dessus des subprimes, n'ont pas accès au crédit parce qu'il y a une réglementation qui est très stricte. Notamment en France, nous avons un système de taux d'intérêt plafond. C'est vrai pour le crédit à la consommation, c'est vrai pour le crédit immobilier, qui empêche les banques de prêter à des gens qui n'ont pas un niveau de solvabilité très élevé. Donc il n'y a pas véritablement de problème de subprime en France. En revanche, comme je l'expliquais tout à l'heure, les banques ont mis au point des produit qui intégrait finalement des parts de créances subprime. Hein. C'est notre histoire du hachis parmentier ou de la salade niçoise qui est chère à notre ami Lévy Lang. Et donc finalement, le monde financier étant très imbriqué, toutes les banques, tous les organismes financiers, y compris les compagnies d'assurance, les hedge funds, les fonds de pension, les grandes banques, etc., ont des intérêts, ont des prises de participation, ont des créances les unes dans les autres. Et donc, à partir du moment où vous avez les banques américaines qui commencent à diffuser ce type de produits sur l'ensemble des marchés financiers, finalement, eh bien, toutes les banques, y compris les banques françaises, sont touchées. Et à cela, s'est greffé un système, si vous voulez, de normes comptables qui a considérablement accentué les choses. Alors, quand on parle de normes comptables, les gens sont un peu effrayés parce qu'ils se disent « Oh là là, on va rentrer dans des domaines extrêmement techniques », mais en réalité, c'est tout de même un problème qui est très important. Après les années 2000, après les scandales Enron, WorldCom, etc., on a changé de règles comptables et on a adopté ce qu'on a appelé des normes « mark-to-market ». L'idée étant de se dire… Pour les grandes entreprises, la vérité de la valeur de leur actif, c'est la vérité des marchés financiers. C'est-à-dire que
le prix auquel le marché est prêt à payer.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une banque a un actif qu'elle doit valoriser tous les trois mois, elle va le valoriser au prix qui est indiqué par le marché financier. Alors ça, c'est un système qui fonctionne très bien par beau temps, quand tout va bien. Mais c'est un système qui est extraordinairement pernicieux par temps d'orage. Procyclique, exactement, puisque quand les marchés boursiers vont moins bien, les banques ont moins d'actifs, ce qui signifie qu'elles ont moins de fonds propres, ce qui signifie qu'elles prêtent moins, parce que les banques ont des ratios de prudence, des ratios prudentiels à respecter, et elles ne peuvent prêter qu'en fonction de l'argent qui est le leur.
Leur matelas.
Leur matelas, exactement, ce qu'on appelle leurs fonds propres. Et donc, si les banques ont moins de fonds propres, elles prêtent moins. Et ces normes mark-to-market ont entraîné une dévalorisation de l'actif très rapide des banques, et donc des baisses de fonds propres extrêmement rapides. Alors, bien sûr, ça n'est pas la cause de la crise, mais ça a joué le rôle d'agent propagateur, si vous voulez, ça a considérablement accentué la crise, et donc les banques se sont retrouvées coincées finalement, et elles ont eu beaucoup de mal à faire crédit. Et on se situe encore dans ce contexte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si en France il y a des problèmes d'accès au crédit, c'est bien parce que les fonds propres des banques ont diminué.
Alors les fonds propres des banques ont diminué, ils ont diminué d'ailleurs au niveau mondial.
Absolument,
bien entendu. Certains observateurs considèrent que l'essentiel des fonds propres des banques ont disparu, ce qui n'est pas la vision la plus optimiste, mais plus le temps passe, plus on se demande si ce n'est pas eux, c'est Cassandre qui ont raison. Alors en France, puisqu'on est en France, et bien entendu, les banques se sont elles aussi situées dans une crise d'illiquidité et de perte de confiance généralisée. Mmh. Elles ne se prêtaient plus entre elles. Le gouvernement a pris des mesures extrêmement énergiques, avec notamment la nomination d'un médiateur du crédit, dont on connaît le dynamisme, René Ricol. Alors, il semble, d'après ce que René Ricol a déclaré, que en fait, le processus soit en train de se remettre en route et que finalement, les banques françaises, globalement, on va dire, accompagnent à peu près la demande à hauteur, même si, bien entendu, les critères de sélectivité sont un peu plus forts, mais accompagnent à peu près la demande à la hauteur de ce qu'elle exprime.
En France, nous avons énormément de chance. Nous avons un système de banques universelles. C'est-à-dire que nous avons des banques qui sont à la fois des banques d'investissement, c'est-à-dire des banques qui font des opérations sur les marchés financiers, qui aident, on va dire, pour résumer, les entreprises dans leurs relations avec les marchés financiers. Ça, c'est le volet banque d'investissement. Et puis le volet banque de détail, qui nous concerne, nous, en tant qu'épargnants, et qui consiste finalement à collecter l'épargne des ménages, ou des entreprises, ou des États, enfin tous les agents qui ont de l'épargne excédentaire, pour la reprêter aux agents économiques qui, eux, ont besoin de liquidités. Et c'est vrai qu'en France, nos grandes banques, celles que nous connaissons, hein, c'est-à-dire la Société Générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, toutes ces grandes banques disposent d'énormément de dépôts. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'elles ont une masse de liquidités à leur disposition qui est tout à fait importante. Et ça n'était pas le cas de toutes les banques anglo-saxonnes. Si vous prenez une banque comme Northern Rock, par exemple, c'était une banque qui, en réalité, disposait de très peu de dépôts. Ce qui veut dire que quand les gens ont commencé à faire la queue parce qu'ils ont pris peur pour récupérer leurs dépôts, la banque, alors là, pour le coup,
elle était incapacité.
Voilà, exactement, dans l'incapacité totale d'honorer ses engagements. Donc c'est vrai qu'en France, nous sommes protégés. Alors il faut ajouter
Le modèle français est plutôt protecteur.
Il est plutôt protecteur. Alors évidemment, il y a 3 ou 4 ans, il faisait un petit peu ricaner dans les cénacles anglo-saxons parce que nous étions peut-être un petit peu moins performants que les banques anglo-saxonnes sur la banque d'investissement. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui est relativement protecteur. Faut pas oublier que les banques françaises ont été privatisées relativement récemment. Si vous prenez une banque comme BNP Paribas, par exemple, hein, elle a été privatisée il y a moins de 20 ans. Et donc, c'est vrai que nos banques ont... Alors, je marche un peu sur des œufs.
Crédit Agricole aussi, d'ailleurs.
Crédit Agricole aussi. Donc, ce sont des banques qui ont gardé, qui ont quand même conservé une approche assez prudente, finalement, dans la gestion des risques. Et, bon, ce qui, aujourd'hui, s'avère quand même être une stratégie intéressante. Alors, à côté de cela, ou plutôt en plus de tout cela, l'État français, sous l'impulsion du président de la République, a pris des mesures, en effet, très importantes pour recapitaliser les banques, pour apporter des fonds propres aux banques. On en revient au problème précédent. Et ça, il est vrai que c'est de nature à permettre aux banques de prêter davantage. Cela dit, j'entends bien ce que dit René Ricol, et il est dans son rôle de médiateur du crédit quand il essaie de calmer le jeu. Moi, quand je regarde aujourd'hui les chiffres de crédit qui sont diffusés par la Banque de France, j'observe une situation très hétérogène. C'est-à-dire qu'en effet, on n'a pas de crédit crunch généralisé. Ce qu'on appelle un crédit crunch, c'est vraiment une rupture brutale dans l'offre de crédit, plus de crédit. Ça, on ne l'a pas. En revanche, on a des phénomènes de rationnement du crédit. Ce qui veut dire que les gens qui ont besoin de crédit, les ménages, les entreprises, ont quand même plus de difficultés à en trouver. Si je prends les trois grands segments du crédit, c'est-à-dire crédit aux entreprises. Si vous êtes une entreprise très bien notée, avec une bonne notation, pas de problème, vous avez accès au crédit. Si en revanche, vous êtes une entreprise qui a connu quelques difficultés, qui n'est pas très bien notée, là, crédit crunch, pas de crédit. Si je prends le crédit immobilier, les crédits relais, crédit crunch, pas de crédit. Les crédits immobiliers traditionnels, on va dire en rationnement du crédit, c'est-à-dire qu'on demande aux ménages des garanties plus importantes qu'on ne leur a demandé il y a quelques années, et puis pour les autres, en revanche, leur demande n'est pas servie. Sur le crédit à la consommation, un rationnement du crédit, sauf pour certains petits opérateurs spécialisés qui ne sont pas filiales de banque et là qui ont du mal à prêter, et là crédit crunch. Donc vous voyez, on est sur des situations extrêmement différenciées selon les types de crédits. Donc en effet, comme le dit René Ricol, pas de rupture brutale dans l'offre de crédit au niveau global, notamment parce qu'en effet des mesures de politique économique ont été prises, et puis parce que la situation des banques françaises était fondamentalement assez saine, en tout cas plus saine que les banques anglo-saxonnes ou que les banques espagnoles. Mais enfin, sur certains segments, quand même un certain nombre de difficultés aujourd'hui pour accéder au crédit.
Des difficultés, mais peut-être aussi la prise en compte de, vraiment du coût du risque.
Oui, mais ça, vous avez raison de le rappeler. Parce que,
On avait oublié.
Je suis toujours étonné de ce procès qui consiste à dire aujourd'hui les banques ne prêtent pas assez, mais il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, on ne peut pas dire elles ont trop prêté auparavant. Et aujourd'hui, où l'économie est quand même dans une situation plus que compliquée, dire elles ne prêtent pas assez.
Il y a forcément un devoir de prudence.
Hein. Absolument.
Mais alors donc, on voit bien ce que vous expliquez parfaitement, comment le processus, le vent mauvais qui vient d'Amérique, qui atteint les côtes françaises et européennes, et puis qui progressivement, et là c'est le dernier point qui celui-là inquiète, que vous appelez la peur de la récession, qui atteint donc l'économie réelle. Et donc, ce processus, peu d'économistes l'ont vu arriver. Certains économistes aujourd'hui rappellent que les règles et les modes de fonctionnement de l'économie ne sont pas celles de l'économie financière et que notamment les règles d'ajustement fonctionnent sur l'économie financière à l'envers. C'est-à-dire que lorsque la demande augmente, eh bien l'offre suit le même cycle, alors que sur l'économie réelle, évidemment, il y a des ajustements inverses et qui donc régulent les choses. Donc la question que l'on peut se poser, c'est que, en fait, où va-t-on ? Quelles vont être les conséquences durables sur l'économie réelle ? Autrement dit, est-ce que ça va être une crise simplement comme les autres ? Autrement dit, après une phase d'ajustement, on repart et les zones les moins touchées tirent le reste du monde. Alors, quid des pays émergents ? On commence à dire que ça va être extrêmement dur de leur côté, notamment en Chine. Quid de l'Europe ? Quid de la France ?
Alors, concernant les pays émergents, c'est vrai qu'on nous avait vendu il y a quelques mois la théorie du découplage qui consistait à dire que la croissance dans les pays émergents et dans les pays de l'OCDE évoluait sur des plateaux relativement différents, qu'il y avait une certaine autonomie des pays émergents. Alors, je crois qu'il faut choisir, c'est soit découplage, soit mondialisation, mais il faut faire un choix entre... Ça peut pas être les deux en même temps. Et clairement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est la mondialisation et pas le découplage. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, il y a aujourd'hui une baisse de l'activité, enfin une baisse de la croissance économique qui est très forte dans les pays émergents. Alors, ça se fait de façon relativement différenciée. Hein. Les pays, on parle des pays émergents, mais en réalité, ça recouvre un ensemble assez protéiforme. Je dirais que vous avez trois types de pays. Vous avez les pays hydrocarbures, les pays exportateurs de matières premières. Alors là, évidemment, la situation aujourd'hui est extrêmement compliquée. Je pense à un pays comme la Russie. La Russie, c'est un pays qui...
Tirait ses capitaux.
Oui, qui est très, très dépendant des exportations de gaz, de pétrole. Et quand vous êtes très dépendant des exportations de gaz et de pétrole et que vous pensez que la hausse des prix de matières premières va durer, vous faites n'importe quoi en termes de politique économique. C'est typiquement ce qui s'est passé avec le couple Poutine-Medvedev. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les doigts parce que la croissance est littéralement en train de s'effondrer en Russie, et tous les capitaux sont en train de repartir. Vous avez des pays comme la Chine, qui sont des pays qui, bien entendu, sur le long terme, sont engagés sur la voie du développement, il n'y a absolument aucun doute là-dessus, mais qui, aujourd'hui, subissent un ajustement extrêmement brutal. La Chine, ça reste quand même en grande partie un pays de sous-traitance, pour le compte des entreprises des pays développés. Donc si vous avez moins de demandes dans les pays développés, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez des baisses d'activité très fortes dans les usines chinoises. L'économie chinoise a tenu jusqu'aux Jeux Olympiques. Au moment des Jeux Olympiques, il y a eu un creux. Ça a repris un tout petit peu après. Et puis là, ça plonge à nouveau. Donc, des difficultés pour l'économie chinoise. Et puis, vous avez des pays émergents qui ont fait beaucoup de réformes ces dernières années, de privatisation, des réformes pour améliorer l'attractivité des capitaux étrangers. On peut penser à des pays comme le Maroc, des pays comme la Pologne, par exemple, comme le Brésil. Alors, il y a des difficultés dans ces pays, mais je pense qu'ils vont quand même réussir à passer cette crise dans des conditions qui ne seront pas bonnes, parce que c'est le cas de personne. Mais enfin, il y a un potentiel de rebond dans ces pays qui est tout à fait important. Concernant les pays riches, et en particulier la France, il est clair que nous sommes entrés en récession. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne sort pas indemne d'une crise financière comme celle-ci. Donc, ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on est en récession. C'est une récession qui est extrêmement forte. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Je pense qu'il vaut mieux regarder les choses telles qu'elles sont plutôt qu'essayer de se rassurer. On avait un deuxième et un troisième trimestre qui n'étaient globalement pas bons dans les pays de l'OCDE. Mais depuis la mi-octobre, le début du mois de novembre, on assiste véritablement à un effondrement dans certains secteurs. Et ça, ça va durer au premier semestre, sachant qu'au premier semestre, on va aussi avoir le pic des faillites d'entreprises. Je pense à des secteurs comme les agents immobiliers. Aujourd'hui, ils peuvent tenir encore en termes de trésorerie. Ils ne le pourront plus au premier semestre 2009. Alors, en même temps, une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de dire tout va mal, c'est catastrophique, etc. Il faut aussi voir la bouteille à moitié pleine. Je crois qu'il y a deux choses. D'une part, il faut se rappeler que tout ceci est cyclique. Il y a des phénomènes physiques qui font que l'effondrement ne peut pas être total. Je prends un exemple très pratique pour bien me faire comprendre. Aujourd'hui, vous avez une baisse d'activité incroyablement forte dans le secteur du pneu, avec un phénomène de déstockage massif. On ne produit plus du chômage technique, etc. Donc les gens ne remplacent plus leurs pneus. Va venir un moment où les pneus vont éclater. Et là, il faudra bien les changer. Et donc, vous aurez un phénomène
de reprise,
pas violent, mais un phénomène de restockage. Et donc, vous aurez à nouveau un petit peu d'activité économique. Ça, ce sera pour le deuxième trimestre 2009. Donc, ça ne veut pas dire qu'on aura une croissance positive, etc. Mais ça veut dire qu'on ne sera plus en situation d'effondrement, mais qu'on commencera à rentrer doucement dans une situation de convalescence. La deuxième chose qui me paraît très importante, c'est qu'il y a quand même des mesures de politique économique qui sont prises. C'est la grande différence avec les années 30. On le voit bien en France, mais le gouvernement britannique a fait un plan, qui peut être critiquable par certains aspects, mais il a fait un plan de soutien d'activité, le gouvernement espagnol pareil. En France, nous avons un plan qui, je trouve, est un bon plan, cohérent, le plan de relance de l'investissement, en particulier de l'investissement public, des travaux publics. Je trouve que, avec les moyens qui sont les nôtres et qui ne sont pas très élevés, tout ceci est...
Hélas,
absolument, mais tout ceci est quand même plutôt bien fait. L'Allemagne va y venir très certainement. Donc, il y a quand même des mesures de soutien à l'activité qui ne vont pas permettre de relancer l'économie, mais qui vont permettre de gagner 0,5 points de croissance. Donc, c'est toujours bon à prendre. Allons-y. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'étymologie du mot crise, c'est le changement. Dans les périodes de crise, les affaires continuent. Il y a des choses à faire. C'est aussi dans les périodes de crise qu'il y a des remises en cause, que certaines entreprises se révèlent. Et puis, vous savez, en période de crise, on recommence à faire du commerce. Ça, c'est terrible à dire, mais quand tout va bien, les entreprises ont tendance à se recentrer vers elles-mêmes, vers leurs produits. Elles se laissent un peu porter par le marché. Et en période de crise, il faut retourner vers le client, faire ce qu'on appelle du marketing client, recommencer à vendre, tout simplement. Et ça, eh bien, ça laisse une belle place de beaux espoirs aux meilleurs.
Donc, c'est ça. Donc, vous terminez sur cette note très optimiste en disant, écoutez, on est dans un cycle, c'est une crise comme les autres, peut-être un peu plus globale, peut-être un peu plus large que celle qu'on a connue au cours
Et très violente. Ce qui est très particulier dans cette crise, c'est la violence du choc et le fait qu'il y a encore un an, personne ne s'attendait à ce que le choc soit aussi fort.
Et ça s'est répercuté, elle s'est transmise à une vitesse extrêmement rapide et d'une façon extrêmement large. C'est peut-être ça qui est tout à fait...
Et dans l'ensemble des grandes économies. Et là, on voit bien que la mondialisation, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris Dubaï, vous n'avez quasiment aucun pays qui échappe à ces difficultés.
Et la contrepartie de ce que vous êtes en train de constater, c'est-à-dire que la mondialisation, c'est une réalité. Et il y a peut-être aussi l'espoir de se dire que chacun, au bout de la mondialisation, s'aperçoit qu'il est solidaire et que tout le monde est sur la même barque. Alors, vous y croyez, ça, à cette solidarité, à cette cohérence durable, cette prise de conscience?
Solidarité, je ne sais pas, mais à cette cohérence et à cette coordination, je dirais oui, on le voit voit bien en Europe. On nous dit en Europe, il n'y a pas de plan de relance européen à proprement parler. Mais c'est normal. Il n'y a pas de budget européen à proprement parler. Et puis, il ne faut pas faire l'Europe pour faire l'Europe. Il faut faire l'Europe si c'est intéressant, si ça a un sens. Et je trouve que le mode de coordination des politiques économiques aujourd'hui en Europe est très intéressant. Les gouvernements se parlent. Tous les grands pays européens ont fait un plan de relance. Même les Allemands vont y venir. Alors l'Allemagne est dans une situation un peu particulière. C'est un gouvernement de coalition. Les Allemands ont un excédent budgétaire. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas envie de dépenser leur argent tout de suite. Mais on va se rendre compte que tous les pays européens auront fait des plans de soutien à l'activité en parlant entre eux. Et donc l'effet en sera d'autant plus fort. Donc on voit qu'on a un début de coordination de politique européenne.
Et ça, c'est une source d'espérance.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors voilà, nous venons d'entendre l'analyse de Nicolas Bouzou sur ce qui est néanmoins un krach financier, avec ses convictions, avec sa passion. Et je rappelle ce que disait un observateur concernant Nicolas Bouzou. Il disait la chose suivante: Nicolas Bouzou parle de l'économie comme Eugène Saccomanno parle du football.
J'espère faire une aussi longue carrière que lui.
D'une part. Et en tout cas, vous transmettez la même passion et avec une facilité très importante, un sens de la pédagogie avéré. Une nouvelle fois, merci Nicolas Bouzou. Je rappelle donc votre ouvrage qui vient juste de sortir chez Erol et qui était très attendu. Crack financier, emploi, crédit, impôts, ce qui va changer pour vous. Chez Erol, 10 euros aux éditions Organisation chez Erol. Merci à vous, Jean-Louis. Nicolas. Merci à vous.